Il y avait un prince nommé Oreste. C'était le fils d'Agamemnon et de Clytemnestre. Il avait pour sœurs Iphigénie et Électre. Alors qu'il n'était encore qu'un bébé, son père était parti pour la guerre de Troie. Et pour que tous les Grecs, bloqués dans le port d'Aulis, puissent partir pour Troie, pour que le vent puisse souffler dans leurs voiles, Agamemnon avait sacrifié sa propre fille Iphigénie, la sœur d'Oreste. Puis il était parti à la guerre pendant 10 ans. Pendant ces 10 années, Oreste avait grandi. Il était devenu un enfant, puis un adolescent. Sa mère n'arrêtait pas de dire qu'elle attendait l'arrivée d'un messager qui viendrait annoncer la mort du père d'Oreste, la mort d'Agamemnon, la mort de celui qui avait tué sa propre fille. Mais ce messager n'arrivait jamais. Clytemnestre avait fait venir dans le palais de Mycène, dans le palais d'Agamemnon, le pire ennemi d'Agamemnon, son cousin Égiste. Elle l'avait fait venir dans son lit, elle vivait avec lui. Et tous les soirs, il festoyait, il mangeait les biens d'Agamemnon, et il riait. Et il disait: J'espère qu'Agamemnon mourra bientôt. Et tous les soirs, Oreste assistait à cela. Et tous les soirs, Électre, l'autre sœur d'Oreste, lui disait: Il va rentrer, ne t'inquiète pas, notre père va rentrer, et notre père tuera Égiste. Il sera de nouveau avec notre mère Clytemnestre, et tu verras, tout ira bien, tout ira bien, tout ira bien. 10 années se sont écoulées, et aucun messager n'est venu annoncer la mort d'Agamemnon. Et au bout de 10 années, la guerre de Troie s'est achevée. Et au bout de 10 années, Agamemnon est rentré de Troie avec une captive, une fille de Priam, Cassandre. Quand il est arrivé, Égiste s'est cachée et Clytemnestre l'a accueilli tout sourire. Et elle qui avait dit tant de mal sur lui pendant ces 10 années, elle lui a fait tant de compliments. Oreste regardait son père, qu'il n'avait connu que tout jeune enfant. Il le voyait là s'avancer, avec ses muscles puissants, avec sa cuirasse ébréchée, avec son casque troué et son sourire auquel il manquait plusieurs dents. Agamemnon a pris cet enfant, il l'a soulevé, il lui a dit: Ah, mon fils, comme je suis enfin heureux de te rencontrer, de te voir, comme tu as grandi. Comme tu vas être un héros comme ton père, tu combattras toi aussi, tu seras pieux et valeureux. Électre ne disait pas un mot, mais elle attendait le moment de dénoncer Égiste, de montrer à son père où il se cachait pour qu'il mette fin à cette hypocrisie. Et Oreste assistait à tout ça sans savoir s'il était content, s'il était triste, s'il avait peur. Et puis ce soir-là, Agamemnon est allé prendre un bain. Et ce soir-là, alors qu'il sortait de son bain, Clytemnestre en a profité pour l'assassiner avec Égiste, ainsi que la captive qu'il avait ramenée, Cassandre. Puis, toujours le couteau à la main, pour finir le travail, comme disait Égiste, ils ont cherché Oreste. Et Clytemnestre n'était pas en reste, elle l'appelait: Oreste, mon petit Oreste, où es-tu? Viens voir ta maman. Alors c'est Électre qui a pris Oreste par la main et qui l'a emmené jusqu'à un vieux serviteur qui était resté fidèle à Agamemnon. Et le vieux serviteur a emmené Oreste loin, en Phocide. Il l'a emmené chez une sœur de son père. Là, Oreste a grandi, terminé son enfance et son adolescence dans ce palais. Il a oublié cette nuit de meurtre et de massacre. Il a oublié ces 10 années d'attente, de rire et de mots vengeurs. Il a oublié, avec ce père, cette mère adoptive, il s'est senti si bien. Et leur enfant Pilade est devenu comme un frère pour lui, un frère qui jouait tranquillement, qui jouait. Quand Oreste est devenu adulte, une nuit, il a fait un rêve. Dans son rêve, Apollon lui est apparu, et Apollon lui a dit « Maintenant, tu es assez grand, tu vas prendre un poignard. » Et tu vas aller venger ton père. Maintenant, tu es assez grand. » Le lendemain, Oreste s'est réveillé, il n'en a parlé à personne. Il s'est dit que ce n'était qu'un rêve après tout. Mais la nuit suivante, il a fait le même rêve, et la nuit d'après aussi. Alors il en a parlé à Pilade, son ami, son frère. Et Pilade était tout excité, il lui disait: « Tu es un homme maintenant, tu as une mission d'homme à accomplir, venger ton père. » Il lui a offert un poignard pour accomplir cette mission. « Tiens, avec ça, tu vas y arriver. Avec ça, tu accompliras la vengeance. Avec ça, tu deviendras un homme. » Et Oreste est parti pour Mycène. Il s'est grimé les traits, coupé les cheveux, il les a teints avec une racine de feu. Quand il est arrivé au palais de Mycène, où régnaient encore Clytemnestre et Égiste, il a dit qu'il était un voyageur, qu'il était passé par la Phocide, et que le roi de Phocide avait transmis un message pour Clytemnestre et pour Égiste. Il a dit que le roi de Phocide venait lui annoncer qu'Oreste était mort. Et Clytemnestre a poussé un tel cri de joie qu'Oreste, qui n'était pas bien sûr qu'il accomplirait sa mission, en est devenu d'un coup persuadé. Elle a fait venir Égiste, qui s'était éloigné du palais. Elle l'a fait venir pour festoyer avec lui. Et quand Égiste est arrivé, Oreste était à l'entrée du palais. Il a sorti son poignard, et avant que l'autre n'ait le temps de réagir, il l'a tué. Et Égiste a poussé un tel cri. Oreste n'aurait jamais cru que c'était possible. Le cri a alerté Clytemnestre, qui est venu. Elle l'a regardé avec ce poignard ensanglanté, et elle a aussitôt compris ce qui se passait. Elle lui a montré le sein qu'il avait nourri quand il n'était qu'un bébé, les bras qu'il avait bercés. Mais il avait commencé le travail, il ne pouvait pas s'arrêter. Il a levé son poignard et il a frappé, et frappé, et frappé encore sa mère, et frappé encore sa mère. Puis il a repris sa route vers Argos. Quand il se faisait passer pour un voyageur, il disait qu'il était en route pour Argos. Et maintenant, il ne savait plus très bien qui il était. Alors il a continué cette route pour Argos. Mais alors qu'il marchait sur le chemin, il a vu les 3 terribles déesses noires, les Érinnies, lui tourner autour, les déesses de la vengeance. Elles lui ont montré les images de son crime, elles lui ont montré son poignard, elles lui ont montré le sang sur ses mains, le sang qui ne voulait pas partir. Oreste a été poursuivi par les déesses à travers tout le Péloponnèse. Il ne s'est pas arrêté à Argos, il a continué sa course, il a couru partout. Il est allé se réfugier un temps chez Ménélas, mais Ménélas n'a rien pu faire pour lui. Il a continué sa route encore et encore. Il est arrivé jusqu'à Athènes. Et là, à Athènes, sur l'Aréopage, les Érinnies avaient rassemblé un tribunal pour le juger. Et le tribunal a écouté tout ce qu'il avait fait. Et les mots qu'il utilisait pour se défendre, Le tribunal a tout écouté. Mais le tribunal n'a pas réussi à trancher. 3 voix pour, 3 voix contre, 3 voix pour le libérer, 3 voix pour le torturer à tout jamais. Alors c'est la déesse tutélaire des lieux qui a tranché. C'est Athéna qui a amnistié Oreste. Mais elle a ajouté, si tu veux complètement te purifier, il faut que tu mettes fin à toute cette tragédie. Il faut que tu ailles chercher la statue d'Artémis, presque à l'autre bout du monde, en Tauride. Il faut que tu ailles chercher cette statue et que tu la ramènes à Mycène, là où tout a commencé. Oreste est allé chercher son ami Pylade. Et ensemble, ils ont armé un bateau. Et ensemble, ils sont partis pour l'autre bout du monde. Ensemble, ils sont partis pour la Tauride. Ils ont traversé la mer Égée. Ils ont passé le détroit du Bosphore. Ils sont entrés dans l'immense mer Noire. Et ils ont navigué jusqu'à l'actuelle Crimée, cette terre que les anciens Grecs appelaient la Tauride. Là-bas, ils ont abordé à ces rivages noirs. Mais à peine étaient-ils sortis du bateau que les habitants les ont attrapés, que les habitants les ont capturés, que les habitants les ont portés jusqu'à leur roi Thoas, et que Thoas leur a dit qu'ils allaient mourir, qu'ils allaient être sacrifiés à Artémis, leur déesse, comme il le faisait avec tous les voyageurs qui s'égaraient jusque-là. Il a dit ça avec un grand sourire. Et Oreste a revu toutes les images de sang. Il n'a rien dit. Puis Thoas, le roi, l'a conduit jusqu'à la prêtresse qui s'occupait de ses exécutions, la prêtresse qui s'appelait Iphigénie. C'était elle, c'était la sœur, celle qui avait été sacrifiée pour que les Grecs puissent partir pour Troie bien des années auparavant. Mais la sœur n'a pas reconnu le frère qu'elle n'avait vu que tout jeune enfant, et le frère n'a pas reconnu la sœur. Iphigénie les a fait parler, et lui, très simplement, il a raconté tout ce qui lui était arrivé. Elle lui a fait répéter, une fois, 2 fois, 3 fois. Elle a demandé à lui parler en privé. Et là, elle lui a raconté qui elle était. Elle lui a dit qu'elle allait partir, partir avec lui. Elle lui a dit qu'ils allaient partir ensemble avec la statue d'Artémis, qu'ils allaient la ramener à Mycène, là où tout avait commencé, pour mettre fin à ce cycle de violence. Elle a dit au roi Thoas que comme l'un des prisonniers avait tué sa propre mère, il fallait qu'il soit purifié par l'eau de la mer. Et Thoas l'a cru. Elle a emmené les 2 prisonniers jusqu'au rivage marin. Puis là, elle a demandé aux gardes de s'écarter pour préserver le mystère des rites qu'il fallait accomplir. Et alors que les gardes s'écartaient, elle est montée dans le bateau avec Oreste, avec Pylade, avec la statue d'Artémis qu'ils avaient emmenée aussi pour la purification. Ils ont mis tout ça dans le bateau, et le frère et la sœur se sont enfuis. Quand il s'est aperçu de ce qui se passait, Thoas les a poursuivis, Thoas les a pourchassés. Mais on dit que les dieux faisaient souffler dans leur voile un vent favorable. Il n'a pas réussi à les rattraper. Ils ont pu rentrer jusqu'à Mycène. Ils ont pu ramener la statue. Ils ont pu mettre fin au cycle de violence.